Je crois que cette affaire est tout à fait révélatrice de ce qui se passe depuis un certain temps, s'agissant de la propriété littéraire, ou du moins de la façon dont elle est envisagée. Antonin Artaud est mort en 1948, laissant derrière lui un certain nombre de documents, de textes, de dessins, qui apparaissaient à sa famille d'alors comme, à proprement parler, exorbitants, c'est-à-dire se plaçant dans une marginalité quasiment totale. Ce qui fait que, par les soins de l'éditeur de l'œuvre d'Artaud, la connaissance de cette œuvre est venue petit à petit au jour, sans réclamation quelconque de la famille qui
était hors contrôle,
qui se désintéressait de cette affaire dans la mesure où, comme aurait pu le faire sans doute à la fin du 19e siècle, des héritiers éventuels de Van Gogh, ils devaient considérer que c'était l'œuvre de quelqu'un de fou ou qui aurait proféré des élucubrations sans grand intérêt. Dans un deuxième temps, l'œuvre d'Artaud a été soumise à une interprétation extrêmement féconde, prolixe, je dirais même recouvrante de la part des universitaires, des psychanalystes, des philosophes. Et tout à coup, tout le monde s'est mis à y trouver ce qui y était, d'une certaine façon, c'est-à-dire un sens proliférant qui intéressait au plus haut point l'histoire de la pensée et de l'écrit. Cette époque a duré très longtemps, c'est-à-dire un recouvrement de cet écrit qui passait d'abord pour blasphématoire ou délirant, au contraire, en un écrit plein de sens, plein de profondeur, de sagesse, en même temps que de folie, mais de folie visionnaire, enfin de folie révélatrice. Voilà les deux temps. Puis alors, au point où on en est maintenant, ce qui prouve bien un changement d'époque, vous voyez, dans un premier temps, ça m'intéresse pas vraiment parce que ça sort tellement complètement des normes, une adresse au Dalai Lama ou des choses comme ça, ou le surréalisme en général, qu'est-ce que c'est que ces gens, ils sont fous, anormaux et délirants. Deuxième temps, ah non, ils sont pas fous, anormaux et délirants, mais c'est plein de révélations. Troisième temps, ce que j'appelle le degré zéro de l'interprétation, c'est pour cela que j'ai publié cette conférence au Vieux Colombier, qui est un texte absolument majeur de l'activité d'Artaud juste après sa sortie de Rodez en 1947 à Paris. Troisième temps, après tout, que ce soit délirant ou anormal, que ce soit plein de profondeur et de pensée, au fond, peu importe, nous sommes entrés dans une époque marchande qui s'intéresse principalement au support. Or, les manuscrits sont au même titre que les tableaux, les meubles, les bijoux, les objets, quels qu'ils soient, les manuscrits, dis-je, sont bel et bien aussi des supports de spéculation, à tel point que vous savez comme moi qu'on découpe maintenant des partitions de Mozart. Est-ce que vous voulez l'Allegro ou le Lento? Est-ce que vous voulez même un bout de l'Allegro? Peu m'importe de savoir si Mozart est un génie, si sa musique transporte les sphères et les retourne sur elle-même. Ce que je sais, c'est que sa main a écrit ça sur du papier et que ce papier, par conséquent, est monnayable. Eh bien, on arrive à un moment donné où, tout à coup, alors que cette œuvre d'Artaud paraissait par bout, et d'ailleurs on pourrait contester la façon dont cette œuvre complète a été pensée, parce qu'arrivé à 25 volumes d'œuvres complètes d'Artaud, alors qu'il devrait se trouver déjà dans la Pléiade, ou arriver à quelque chose qui noie un petit peu tous les textes d'Artaud les uns dans les autres, comme si chaque fragment écrit par Artaud était sacré, comme s'il s'agissait de textes bibliques, de manuscrits de la mer morte ou de révélations transcendantales, ça peut se discuter. J'observerai au passage que les œuvres complètes de Georges Bataille, par la même occasion, en 9 volumes, sont faites d'une façon qu'on ne s'y retrouve pas. Comme s'il y avait une sorte de collusion objective entre les gens qui font les œuvres complètes de ce type d'écrit si important, en mettant tout sur le même même plan. Exactement. Par exemple, je vous montre dans mon bureau, j'ai là, édité à New York, les 20 volumes des manuscrits complets de Finnegan's Wake de James Joyce. Il est évident que chaque page d'un des brouillons de Finnegan's Wake est absolument précieux parce qu'il y a une variante, 2 ou 3 trouvailles par page. Mais je n'édite pas les œuvres complètes de Joyce en 20 volumes. J'édite Finnegan's Wake. Alors donc, vous voyez, tout ça est à analyser, je crois, de plus en plus, en se gardant de réactions trop simples, parce qu'il y a là une véritable malveillance d'époque pour cacher des choses gênantes. Un peu, si vous voulez, comme le musée d'Orsay a été la revanche tardive de la bourgeoisie dérangée par les impressionnistes, et que de telle façon que vous ne pouvez pas y regarder tranquillement le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet, ou qu'on vous remet sur le même plan Bouguereau et les impressionnistes. Voilà, donc les ayants droit actuels s'intéressent beaucoup plus, je crois, au support qu'au sens ou à la destination de l'œuvre. Personnellement, parce que je m'intéresse à l'esprit des œuvres, à leur lettre, à leur suite, mais indépendamment du support. Je ne m'intéresse pas au manuscrit de Phèdre de Racine, je m'intéresse à la signification de Phèdre de Racine. Je ne m'intéresse pas au manuscrit d'Artaud, sur lesquels d'ailleurs je n'ai touché jamais aucun copec, pas le moindre petit dollar, même découpé en morceaux. Je m'intéresse à la signification de ce qu'a écrit Artaud dans son époque, c'est-à-dire dans une époque de l'histoire de France que personne ne veut connaître. Lorsque je répète à longueur de temps qu'il faut absolument repenser ce qu'a écrit Artaud dans un contexte historique, personne n'écoute. Personne n'écoute pourquoi ? Parce que ça oblige à se demander ce que personne ne veut savoir, bien que les rapports de médicaux, mais enfin historiques soient là, pourquoi il y a eu par exemple 40 000 morts de faim pendant les hôpitaux psychiatriques français entre 1940 et 1944. 40 000 morts, c'est donc un détail, puisque personne ne veut en entendre parler. Je veux dire par là que les aliénés et les emprisonnés, c'est-à-dire la vie même d'Antonin Artaud à cette époque consistait à la fin à être obligé de boire ou de manger ses excréments, voire l'herbe de la pelouse. Par conséquent, si on ne peut pas remettre ces textes en situation historique, si on les sacralise d'un côté ou qu'on les spécule de l'autre, on a évidemment la situation d'obscurantisme parfait dans laquelle nous nous trouvons.